Trois mois après la rentrée scolaire, la scolarisation des enfants en situation de handicap reste polémique, Isabelle Duché.
Oui, elle reste polémique et elle reste aussi problématique. Nous sommes ensemble ce matin pour comprendre la situation de ces enfants en situation de handicap et plus particulièrement pour voir comment ces enfants sont scolarisés. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Soizic Jegou-Lebris, directeur général de l'AGAPEI. Bonjour madame.
Bonjour.
Nous espérons encore un peu l'arrivée d'Armande Roch, votre présidente. Voilà, nous ne savons pas si elle sera avec nous. En tout cas, je vous remercie d'être là ce matin. Précision sur l'AGAPEI, c'est donc une association qui est affiliée à l'UNAPEI. Et l'UNAPEI, c'est l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. C'est un réseau qui rassemble donc ces AGAPEI et qui rassemble quand même 900 000 personnes en situation de handicap et leurs proches.
Tout à fait.
Sur tout le territoire.
Tout à fait.
Alors, à la veille de la rentrée scolaire, l'UNAPEI avait fait un appel. Elle alertait sur la situation alarmante de la scolarisation des enfants en situation de handicap. C'était ce hashtag « J'ai pas école ». On va voir comment ça a évolué dans ces trois premiers mois d'école. Mais j'aimerais bien que vous nous rappeliez les chiffres pour notre région.
Oui, tout à fait. Chaque année, l'UNAPEI et ses associations affiliées se mobilisent pour le droit à la scolarité des enfants en situation de handicap, parce que près d'un quart des enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés aujourd'hui. C'est le cas dans toute la France, c'est le cas aussi en Occitanie, avec, selon une enquête cette année de l'UNAPEI, pour alerter davantage la société et les pouvoirs publics, 13% des enfants à la rentrée 2025 n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 38% des enfants suivent moins de 6 heures d'école par semaine et 30% d'entre eux entre 6 heures et 12 heures et seuls 19% dépassent 12 heures hebdomadaires de scolarité. Ce sont les chiffres assez inédits de cette enquête en 2025 lancée par l'UNAPEI auprès de ses adhérents.
Vous avez constaté donc que un certain nombre d'enfants n'avaient seulement que quelques heures d'école par semaine. Il y en a qui sont inscrits sur des listes d'attente. Oui. Et il y en a même qui n'ont pas de numéro, le fameux numéro INE.
Oui, un chiffre qui nous a vraiment interpellés en dépit de tous les textes et de l'évolution législative, c'est que 65% en juillet 2025 des enfants n'avaient même pas de numéro INE, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles pour l'éducation nationale.
Est-ce que vous pouvez rappeler, Soizic Jegou-Lebris, à quoi sert ce numéro INE ?
C'est un numéro d'identification, comme on peut l'avoir dans la santé par notre numéro d'attribution. Donc, c'est un numéro qui permet à chaque enfant d'être identifié par l'éducation nationale. Et ce chiffre est édifiant.
Et ce chiffre est édifiant, oui. Alors, pourtant, il y a un chiffre, une autre statistique qui est donnée par l'ADRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, qui indiquait le 6 novembre dernier qu'en 2024, forcément, ils ont pris les chiffres de l'année d'avant, les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire étaient trois fois plus nombreux qu'en 2006. On a quand même progressé.
On a progressé. Cette année, nous fêtons un anniversaire important, celui de la loi de 2005. Et c'est vrai qu'on peut mesurer des réalisations importantes liées à cette loi et à l'obligation de scolarité rappelée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance qui doit renforcer l'inclusion des enfants en situation de handicap. Donc oui, il y a une forte augmentation des élèves en situation de handicap dans les écoles. Oui, il y a eu des créations d'outils spécifiques comme le plan personnalisé de scolarisation, la mise en place des PIAL, le renforcement des ULIS, des classes
les
spécialisées.
Les PIAL, vous pouvez préciser, pardon ?
C'est tout ce qui appuie à la scolarité. Cette année, nous avons développé en Occitanie des PAS, des pôles d'appui à la scolarité, qui sont des partenariats entre le secteur médico-social et l'éducation nationale pour soutenir l'accès à l'école des enfants en situation de handicap. Donc oui, il y a des progrès, mais les défis restent immenses, que ce soit en nombre de personnel AESH dans les écoles, on le voit dans les écoles toulousaines sur certaines entrées, que ce soit en termes de formation des professionnels de l'éducation nationale et même du secteur médico-social. Et nous constatons également des inéquités territoriales. Certains parents font un choix de vie, relatif à la scolarité de leurs enfants. Ils vont vivre là où leur enfant est inscrit et est accepté dans une école ordinaire.
Ah oui, donc ça,
parfois,
ça implique,
c'est à 200 km du domicile.
Ça implique des changements et des changements de travail. On va voir les conséquences pour les familles. Alors, je suis heureuse d'accueillir Armand Roque qui arrive directement d'Albi et qui a fait de la route. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour de grève et donc les routes sont un peu encombrées. Je vous laisse vous débarrasser. Madame, vous êtes la présidente de l'AGAPEI. Et donc, nous parlions avant que vous arriviez de ces chiffres vertigineux. Et Soizig Jegouloubri nous disait qu'il y avait un quart des enfants qui n'étaient pas scolarisés.
C'est tout à fait le cas.
Allez-y.
Oui, c'est tout à fait le cas. Hein. En France, à peu près un quart des enfants ne sont pas scolarisés. Après une enquête de l'UNAPI, 13% des enfants n'ont aucune heure.
Ça, effectivement, nous avons eu ces chiffres. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez maintenant comment ça a évolué, parce que ça, c'était les chiffres qui étaient au début de l'année, à la rentrée scolaire de septembre. Là, il y a quand même 3 mois qui sont passés. On va arriver aux vacances de Noël dans 3 semaines. Est-ce qu'il y a quand même des progrès?
Non.
Rien n'a bougé.
Non, au contraire même, puisque on est en attente de nomination d'ASH et qu'ils ne sont pas là, donc les enfants ne sont pas pris en charge dans les classes, donc ils ne vont pas en classe. Quand il n'y a pas la personne qui peut les accompagner, ils ne vont pas en classe. Donc non, il n'y a pas du tout de progrès, même, je dirais même qu'on trouve qu'il n'y a pas assez d'implication de l'éducation nationale pour nous aider à faire rentrer ces enfants qui n'ont... S'ils ont déjà 1 heure, 2 heures ou 3 heures, on est content pour certains parents. Ouais. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. Ouais. Hein, ce qu'on attend, c'est que les enfants soient pris comme vraiment tous les autres enfants, hein, qu'ils soient inscrits dans les écoles. C'est ce qu'on dit, hein, l'INE. Il faut à tout prix que les parents inscrivent leurs enfants sur les listes des écoles pour qu'ils soient pris en compte par l'éducation nationale.
Ouais,
parce que
ça,
dès
ça,
qu'ils ne sont pas inscrits...
Un message qui est très important à passer hein, pour les parents. Inscrivez vos enfants.
Voilà, et c'est ça. Et ils font partie de la carte scolaire. Et donc, peut-être là, l'éducation nationale, on pourra faire bouger et on pourra faire en sorte qu'ils soient pris en compte. S'ils ne sont pas inscrits et qu'on aille vers eux pour les inscrire, c'est trop tard. Il faut vraiment qu'on fasse... Mais écoutez, exactement comme la citoyenneté pour le vote. Il faut à tout prix que les personnes soient inscrites sur les listes électorales pour qu'ils soient pris en compte la société. Donc, c'est la même chose pour les enfants.
Vous avez dit, Soizig Jegouloubri, qu'il y avait quand même eu des progrès avec notamment des pôles d'appui à la scolarité. Qu'est-ce que vous attendez, l'AGAPEI, et puis avec votre, la structure plus globale d'une API, pour vous, l'urgence, c'est quoi? Vous avez parlé, Armand Roque, de ces AESH. En fait, il n'y en a pas assez, mais est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils sont bien payés? En fait, c'est quoi l'urgence? L'urgence numéro un, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Alors, moi, je crois que l'urgence, c'est l'inscription des enfants à l'école.
Voilà, donc
qu'ils
ça, Madame Roque.
Qu'ils soient visibles. Ensuite, c'est de défendre vraiment le droit à une scolarité adaptée. Tous les enfants n'ont pas accès à une scolarisation ordinaire, ont des besoins d'apprentissage spécifiques, ont besoin de temps. Quand ils ont 2 heures de scolarité par semaine, alors qu'ils sont plus lents qu'un enfant lambda, est-ce que c'est cohérent? Et surtout, à 16 ans, l'obligation scolaire tombe, si bien que quand des enfants qui ont tardé à rentrer en apprentissage commencent à peine à lire et à écrire, l'obligation scolaire s'arrête. Et ils perdent toute chance de poursuivre leur développement ou de consolider leurs acquis. Aujourd'hui, on a une perte de chance réelle des enfants et des jeunes en situation de handicap. Dans nos établissements, je vous le disais en aparté, sur Toulouse, on a 800 enfants en liste d'attente en IME-CESAD. Ce sont des enfants qui vont rester 3 ou 4 ans en liste d'attente sans solution, donc avec une perte de chance peut-être définitive pour leur futur et surtout des risques pour les familles de craquer, de perdre espoir et de faire des choix parfois difficiles.
Oui, parce que vous disiez que certaines familles se voyaient contraintes de déménager à 200 km de chez elles pour pouvoir scolariser leurs enfants. Quelles sont les autres conséquences pour les familles de ces difficultés de scolarisation?
La première chose, c'est que un des parents arrête de travailler. Hein, donc c'est la précarité qui arrive, parce que ben, pour s'occuper d'enfants, la mère, souvent, excusez-moi, hein, on est encore, c'est pas du tout du féminisme, mais c'est souvent la maman qui s'arrête de travailler et donc qui s'occupe de ses enfants et on voit pas le bout. Hein, c'est ça, c'est qu'on pourrait se dire, bon, on arrête pour 2 ou 3 ans, c'est ça. Mais non, on ne voit pas le bout parce que y a, enfin, je ne sais pas si Mme Gégoulevry, il n'y a pas de place. Donc, on est atteinte. Il faut savoir que des fois, il faut 4, 5, 6 ans pour avoir une place. Donc, quand on quitte son métier, après, on perd pied pour reprendre. C'est complètement c'est difficile. Quoi, c'est vraiment un engrenage qui est vraiment dû à la handicap de l'enfant. Mmh. Hein, parce que, bon, quand on a des enfants dits normaux, excusez-moi l'expression, mais on arrête 2 ou 3 ans et puis on reprend. Mais là, non, on ne sait pas. Il n'y a pas de
place.
Oui,
il y a cette incertitude qui pèse énormément
c'est,
sur
voilà,
le...
c'est une charge mentale importante.
C'est ça, voilà.
Hein, j'ai souvent dit qu'on avait une maman d'enfant en situation de handicap, une petite lampe rouge dans la tête qui ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24.
Les conséquences pour l'enfant. Alors, j'aimerais bien revenir sur cette obligation qui s'arrête à 16 ans de scolarisation. Est-ce que ça veut dire que l'école n'est plus obligée d'accueillir l'enfant ou est-ce que ça veut dire que l'enfant peut dire, bon, bah, maintenant j'arrête. Est-ce que ça marche dans les deux sens ou est-ce que c'est une obligation qui s'arrête pour l'éducation nationale?
Alors, ça devrait marcher dans les deux sens. La réalité, c'est qu'il manque tellement de places que c'est vrai qu'à 16 ans, on essaye de faire la place pour des enfants plus petits. Donc l'obligation scolaire cessant, des enfants quittent l'école pour laisser la place à des plus jeunes qui attendent. Donc l'urgence absolue, c'est des postes d'enseignants dans les écoles et dans les IME. Ça, c'est vraiment, s'il y avait une urgence de mon point de vue, c'est des postes d'enseignants pour augmenter les places à l'école, que ce soit directement ou par des classes externalisées d'IME. J'allais dire, peu importe, ce qui est important pour nous, c'est la scolarisation, mais au-delà de ça, c'est que les enfants vivent ensemble, apprennent à s'apprivoiser, grandissent ensemble. Nous pensons que la société sera plus inclusive dès lors que les enfants seront habitués à vivre ensemble, à partager des activités, pas forcément que des activités d'apprentissage, hein, des activités périscolaires également, et que la société sera plus accueillante, les entreprises plus inclusives, quand les enfants auront effectivement dépassé tous les a priori liés aux situations diverses de handicap.
Oui. Oui, parce qu'il y a cette, vous en parliez, hein, cette loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle assurait notamment, enfin en tout cas elle prévoyait d'assurer l'accès à la scolarisation pour tous les enfants, quels que soient leurs besoins. Donc vous avez dit que c'était, qu'elle prévoyait l'école inclusive, les AESH, 20 ans après, puisque on va même arriver 21 ans après, puisque c'est au mois de février l'année prochaine. Qu'est-ce qui reste à faire et pour vous, quel est votre plaidoyer vis-à-vis de l'éducation nationale pour arriver à une parfaite, si on peut dire parfaite, application de la loi?
Il faut ouvrir les portes dans les deux sens. Il faut des enseignants en plus grand nombre. Il faut former les professionnels de l'éducation nationale. Il faut vraiment faire rentrer les IME et le secteur médico-social dans l'école. C'est vraiment cette acculturation des deux secteurs professionnels, éducation nationale et médico-social, qui va permettre de garantir l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap. Nous revendiquons la place du secteur médico-social comme soutien à l'accès à l'effectivité des droits. Nous comprenons qu'un enseignant qui a une classe de 28, de 30 enfants soit débordé par l'accueil d'un ou deux ou trois enfants en situation de handicap. Et c'est vraiment la cohérence de ces deux ministères dont nous pouvons dépendre, l'éducation nationale et le secteur de le ministère de la Solidarité, qui vont permettre que les écoles ouvrent leurs portes, que les centres de loisirs ouvrent leurs portes et que les enfants, encore une fois, grandissent ensemble et que nous, secteur médico-social, nous allions vers l'école, vers le milieu ordinaire, à domicile, dans les centres de loisirs, dans les clubs de sport, pour permettre aux enfants en situation de handicap d'exprimer toutes leurs capacités. Le problème de l'école, c'est qu'ils les voient souvent par leur incapacité
et, oui, c'est ça.
Et non pas par leur capacité.
Bah, puissiez-vous être entendu ce matin. Merci beaucoup Armand Roch, président de l'UNAPI, de l'AGAPI, et puis Soizic Jegou-Lebri, directrice générale de l'AGAPI. Vous nous avez informé sur ces difficultés malheureusement persistantes de la scolarisation des enfants porteurs de handicap. C'était votre grand entretien sur Radio Présence. Merci.
Merci à vous.